Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atari dans lequel on va parler du Mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi, donc le nouveau film de réalisateur de Drive My Car, de Conte du hasard et autres fantasy, donc un réalisateur qu'on aime beaucoup à Criticat. Je suis accompagné pour en parler de Josué Morel. Salut Josué.
Salut Corentin.
Alors Le Mal n'existe pas raconte l'histoire d'un père et d'une fille, donc Takumi et Anna, sa fille, qui vivent dans une région un peu reculée au Japon. Alors pas vraiment reculée, ils sont pas très loin de Tokyo, mais en tout cas une région rurale. Très enneigé, parce que le film se passe en hiver, l'hiver est assez rude, et donc ce père s'occupe un petit peu, c'est un homme à tout faire, on va dire, du village, et donc dans un village qui est une communauté assez soudée, qui vont voir donc deux promoteurs d'un projet de glamping, donc faut comprendre glamour camping, je crois que c'est ça, hein, la contraction, donc des sortes d'influenceurs ou des Tokyoïdes qui vont venir en week-end dans un espèce de camp, et donc il va menacer un petit peu l'équilibre de cette communauté-là. Alors, c'est un peu une fausse piste, entre guillemets, dans le film, puisqu'il y a évidemment, comme souvent chez Hamaguchi, des distorsions dans le récit, dans la ligne narrative qui est celle de départ. Josué, est-ce que le film t'a convaincu, sachant que, bon, on avait évidemment déjà parlé, notamment du dernier, dans un épisode d'Atari, dont je renvoie un petit peu, si vous voulez le voir, il est sur la chaîne YouTube. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce nouveau film d'Hamaguchi qui revient, qui a été présenté donc à la Mostra, je crois, en septembre dernier.
Oui, dont il est reparti avec un grand prix. C'est curieux parce que je pense que le film produit une espèce de sensation, voire même de sidération un peu immédiate. Quelque chose d'assez impressionnant. Et alors bon, je l'ai vu aussi un peu plus en avance, je l'avais vu en novembre dernier au Festival des Trois Continents, je l'ai revu plusieurs fois, et je dois dire que même si le film me séduit par endroits, j'ai un peu une résistance, dont on parlera je pense plus tard dans cette vidéo, peut-être une forme de limite, j'ose un peu parce que je suis un peu à contre-courant du reste de la revue sur ce point. Mais ce qu'on peut dire, tu vois, par exemple, c'est très intéressant ton résumé là du scénario mis à plat, c'est-à-dire qu'en fait ça, ces lignes structurantes sont pas du tout claires quand on voit le film, c'est-à-dire que le film se déplie au fur et à mesure, si bien que d'ailleurs on a un peu du mal peut-être à comprendre exactement où va Hamaguchi, et en même temps d'emblée tout est là, c'est-à-dire que le film s'ouvre notamment comme un thriller en fait, hein. C'est-à-dire que ce qui se passe à la fin, et je pense qu'on peut en parler assez librement parce que j'imagine que les personnes qui vont voir cette vidéo ont vu aussi le film, si ce n'est pas le cas, eh ben, vous pouvez l'avoir plus tard, c'est qu'il va arriver quelque chose à la petite fille. Et d'emblée, la musique, une première disparition, des plans un peu dissonants, je pense par exemple.
Le titre, en fait.
Le titre, évidemment. Non, mais le titre, c'est très intéressant aussi parce que le titre d'emblée met un espèce de paradoxe, c'est-à-dire le mal. Donc, on est dans quelque chose vraiment de métaphysique, etc., mais n'existe pas. Et il y a une forme de quelque chose qui n'advient pas, qui finit par advenir, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il va arriver quelque chose à la petite fille, et en même temps, ça n'arrive pas. Ça n'existe pas jusqu'à un point donné, et encore que. Et je pense que le film travaille beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il essaie de dialectiser des choses qui sont complètement contraires, c'est-à-dire la nature, la civilisation, l'amont, l'aval, les bourgeois toïkoïtes, la communauté rurale, l'adulte, l'enfant, etc., etc. Et qu'en fait, le film va jouer de ces grands écarts-là, et que le grand écart principal du film, ce serait, et ce qui me le rend assez passionnant, et je pense qu'il fait son côté très, très mystérieux et très saisissant dans un premier abord, c'est à la fois le film le plus mystérieux d'Hamaguchi, puisqu'il y a même presque des accents quasiment fantastiques dans la dernière partie, dans le dernier mouvement, et c'est en même temps le plus concret, le plus matérialiste, puisqu'il y a quand même des scènes vraiment basinienne, où on voit le personnage principal, donc Takumi si je ne me trompe pas, qui est en train de découper du bois, et on voit en fait 5 minutes in extenso de travail de bûcheron. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des pures scènes de captation, et il y a une patience, notamment dans toute la première partie du film, où on voit simplement des actions comme récupérer de l'eau de source, cueillir du wasabi, manger, etc., etc. Et en même temps, d'emblée, il y a des signes. Je pense par exemple, tu vois, cette scène au début du film où en fait, le personnage se rend compte qu'il a oublié d'aller chercher sa fille à l'école. Et il y a un plan très bizarre où en fait, la caméra a l'air collée sur le pare-brise. Elle bouge en tout cas avec la portière. Et il y a un effet comme ça très dissonant, quasiment presque aussi de caméra de surveillance. Donc on reviendrait sur quelque chose qui serait de l'ordre du thriller, de quelque chose en tout cas, qui ferait planer une ombre. Et cette alliance entre, on va dire, un horizon un peu opaque, mystérieux, etc., et une veine réaliste, pour moi, est synthétisé dans ce qui est le plus beau plan du film, à mon avis, qui est ce plan où, justement, on voit, juste après cette scène, Takumi partir dans la forêt, il marche, la caméra le suit avec un travelling en plan séquence, et puis, il y a un obstacle, une sorte de
butte de terre,
voilà, de monticule qui lui barre la route, et la caméra continue, on entend la musique,
et puis ensuite,
le monticule s'estompe, on retrouve Takumi, et en fait, on retrouve Takumi avec sa fille sur ses épaules. Et en fait, c'est une pure apparition, et on comprend que hors champ, il a retrouvé sa fille, mais sans un mot. Et donc, il y a cette idée qu'à la fois, bah, c'est une prise non coupée qui capte vraiment un trajet dans toute sa matérialité, etc. Et qu'en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur de cette logique purement réaliste qui est de surnaturel, c'est-à-dire qu'au détour vraiment d'un nivelé du terrain, il y a une apparition d'un corps qui jusque-là avait disparu et qui va être amené à redisparaître, qui est donc cet enfant sur lequel il y a tout un jeu comme ça qui s'organise. Et ça, c'est très très fort. Et le film va faire beaucoup ça, dans cette manière d'entrelacer quelque chose qui serait, voilà, même y compris dans la scène de bûcheron, c'est-à-dire que la scène de bûcheron est presque inquiétante, puisqu'il y a une tronçonneuse, le personnage est vu de loin, à travers les branches, comme s'il était épié. Il y a une manière d'articuler quelque chose qui serait presque de l'ordre du thriller, et qui serait en même temps documentaire, ça serait un bien grand mot, mais en tout cas, une fiction vraiment matinée de réel, et qui filmerait des choses in extenso avec potentiellement des accidents. D'ailleurs, Marin Gérard en parle très bien dans son texte. À un moment, cette scène de la découpe est rejouée. Et c'est vrai qu'il y a un petit éclat de bois qui va en direction de notre personnage, qui va impacter d'une certaine manière la scène. Donc oui, il y a cet entrelacement entre les deux, entre ces deux veines a priori paradoxales, qui rend le film assez étonnant, puisque, et on va en parler, je pense, jusqu'à son dénouement, il y a à la fois quelque chose d'une forme de résistance de la signification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement tout clarifier et mettre à plat dans ce qui se joue entre les personnages, dans l'enchaînement des situations, dans ce dernier mouvement, et en même temps, il y a une logique de causalité totale, c'est-à-dire que tout le récit prépare à cette issue, à ce potentiel affrontement, et cette forme d'irrésolution finale mystérieuse avec un mystère, bon, on va en reparler, mais qui est peut-être un petit peu là où
avant d'en arriver là, voilà. je dirais quand même que, enfin, c'est vrai que j'ai résumé le film de manière assez claire, en fait. C'est pas du tout la manière dont on entre dans le film. Il y a une figure un petit peu qui revient assez souvent, qui résume un petit peu ce côté, on ne sait pas où le film va, mais on avance pas à pas, en tout cas chaque pas est mesuré avec une sorte de patience quand même, mais on ne sait pas où ce pas se dirige, en fait, vers dans quelle direction ça se dirige. C'est que simplement, par exemple, le premier travelling du film, hein, c'est un travelling qui montre donc la canopée, en fait, donc on ne sait pas où le travelling va, typiquement. Donc on avance, mais on ne sait pas où on va. Pareil, il y a plusieurs reprises, il y a pas mal de plans en voiture.
Il y a la musique, et puis il y a ce côté, vraiment, les arbres forment comme des espèces de ramifications qui cisaillent l'espace, donc il y a quelque chose d'inquiétant. Il y a plein de choses qui se passent.
C'est presque un début de film de tueur en série. Enfin, voilà, pour le coup, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là.
Et en même temps, le plan est presque trop long. C'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que d'emblée, on est dans cette logique, je suis d'accord avec toi, ça impose une espèce d'atmosphère, et en même temps, il y a aussi quelque chose d'assez beau de se dire, en fait, je n'ai probablement jamais vu au cinéma ce plan de cet angle-là qui montre vraiment l'enchaînement des arbres et de leurs branches. Et il y a aussi quelque chose d'une forme d'hypnose documentaire dans cette scène-là, quoi.
Oui, c'est ça. Et dans cette même ordre d'idée, et un peu dans le même ordre d'idée que le plan que tu décris, qui est hyper beau aussi, qui est aussi mon préféré dans le film, où il y a une disparition, une apparition, une redisparition, enfin voilà, il y a une sorte d'enchaînement comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de plans en voiture où en fait c'est filmé à l'arrière. C'est très curieux, ça. C'est-à-dire qu'on voit la route qui défile et pareil, donc on avance, mais on ne sait pas où on va. Donc il y a toujours ce côté-là. Donc ça, c'est la partie, moi, je trouve, qui est la plus peut-être stimulante dans le sens, à l'échelle du cinéma d'Amaguchi, parce que pour le coup, c'est pas forcément un cinéaste qu'on attend. Et, pour le coup, là, en voyant le film, quelque part, c'est une sorte de logique quand même fantastique, presque, était presque préexistante dans son cinéma, mais en tout cas, il s'était jamais vraiment frotté à ça. Mais on s'attend plutôt à voir, voilà, l'autre côté, on va dire l'autre pôle un petit peu de son cinéma, qui serait une sorte de cinéma prosaïque, en tout cas du temps qui passe, de l'étirement des situations. Et là, pour le coup, c'est à ce moment-là que le film, moi, me perd un peu. Enfin, en tout cas, je sais pas, je dis pas ça pour... pas négatif en tout cas comme reproche, c'est par exemple la scène de confrontation entre la communauté rurale et donc les promoteurs de projets un petit peu mercantiles pour exploiter la région, est une scène assez longue en fait de champ contre champ, de discussion qu'on croirait là pour le coup un peu documentaire, voilà, une sorte de précision dans le détail du projet, même dans le détail des revendications des habitants, qui détonne complètement avec le côté très mystérieux en fait. Donc du coup on a d'un côté un film qui est plutôt mutique, parce que beaucoup le personnage de Takumi parle pas, enfin parle très peu.
Le dialogue, oui, c'est une autre opposition, voilà, le silence et la parole et le déferlement de parole.
Par exemple, voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment un côté, même la Anna, sa fille, je ne sais pas si elle dit un mot dans le film, mais en tout cas, on la voit quasiment pas parler. Enfin, il y a quelque chose comme ça, c'est une espèce de silhouette dans la forêt qui se déplace, mais qui ne parle pas. Et donc, il y a ces deux côtés-là, et au début, je ne savais pas trop, voilà, comment lier l'un à l'autre. Et je me suis dit, quand même, il y a quelque chose aussi de l'ordre, une forme de corruption, d'enveniment des choses, ou d'empoisonnement, en fait, évidemment, empoisonnement de la nature et du milieu qui est fait par une sorte d'agents extérieurs du capitalisme qui s'infiltrent comme ça dans l'eau un peu pure de la région. D'ailleurs, c'est ce que le recueille le personnage de Takumi, une espèce d'eau cristalline hyper claire qui est magnifiée en plus par le numérique.
C'est un tout petit peu appuyé, c'est-à-dire que c'est verbalisé par le maire. Ensuite, il y a un dessin aussi que fait le personnage après la réunion. Sur voilà,
le lac, voilà. Sur l'affiche aussi. Sur, là, on imagine que l'eau finisse par se déverser dans ce petit étang qui est troué, en plus, qui est glacé, mais pas complètement. Donc en plus, on a un espèce de reflet. Enfin, il y a toute cette dialectique comme ça qui se joue. Mais il y a aussi... une autre histoire parallèle qui se joue, alors là elle est moins dite et pour le coup elle ressemble un peu plus à Drive My Car notamment, qui est l'autre film que fait Hamaguchi en collaboration avec donc Eiko Ishibashi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de la compositrice qui est à l'origine d'ailleurs du projet du Mal n'existe pas, qui est donc le versant un petit peu mélodramatique on va dire, qui est lié donc à cette famille qui est, on l'imagine, et d'ailleurs on le devine avec quelques photos, des indices qui sont désignés sur des photos dans le chalet de Takumi, hanté par une sorte de disparition qui serait celle de la mère.
Alors ça c'est bien parce que moi j'avoue que j'ai eu très très peur en découvrant le film, en découvrant la photo, et je me dis ah non zut, il va refaire Drive My Car et donc ça va être l'histoire d'un deuil pas possible, et donc tout ce mystère tient derrière en fin de compte un truc très psychologisant.
C'est lié mais c'est pas exactement
et
ça.
Et en fait il y a juste un plan, il y a juste un plan, on comprend que la mère est absente, on sait pas exactement ce qui lui est arrivé, et ça se joue juste sur un détail, et ça cette espèce d'épure là de précision de bah, où est-ce qu'est la mère, il y a juste un plan qui nous fait comprendre sans tout nous dire, je pense que c'est vraiment mettre au crédit du film.
Ça suffit à nous poser la question, une question qu'on se posait déjà un petit peu avant évidemment, et ça suffit aussi à donner peut-être un sens un peu plus évidemment réaliste là pour le coup, au fantastique, puisque c'est lié évidemment à une disparition, on ne sait pas laquelle, et puis une disparition qui est rejouée deux fois. Et qui, voilà, en tout cas, il y a ces deux pôles-là qui me semblent représenter un petit peu les deux forces, entre guillemets, en présence dans le cinéma d'Hamaguchi, et qui, moi, j'étais assez vraiment emballé, en tout cas, par la manière dont ces deux choses-là cohabitaient, même si, en fait, elles cohabitent au début pas vraiment, parce que, comme j'ai dit, il y a ces travelling-là dans la forêt, puis d'autre côté, on va dire, les discussions sur le projet, mais au fur et à mesure, quand, justement, les agents du glamping, en fait, vont s'intégrer à l'écosystème, puisqu'ils vont donc demander à Takumi de leur présenter la région. Là, on va avoir une sorte de fusion des deux dans la dernière partie du film, qui est une sorte de battue quoi, en forêt. Enfin, on va chercher comme ça la personne qui est plus dans le récit. Donc, il y a ce côté-là un petit peu, évidemment...
C'est intéressant parce que c'est
posé au début du récit qui va finir par se lier à la fin. Quoi.
C'est vrai que le titre a presque quelque chose d'un problème philosophique. Hein. Le mal n'existe pas, le mal existe-t-il ? Et c'est vrai que dans sa structure même, sans grossir les traits non plus, mais il y a quelque chose de thèse, la nature, antithèse, la ville, et synthèse, la rencontre entre les deux, et la concrétisation de ce qu'il y avait en puissance dans la première partie. À la fois, je trouve ça assez passionnant, et je trouve qu'il y a des jeux dialectiques qui sont en effet très curieux et qui permettent en plus... Ce que je disais sur l'attention à la nature, ça se joue aussi sur des plans alors qui sont peut-être décorrélés d'une logique d'écriture qui circulerait de plan en plan dans le découpage, mais qui participe d'une logique un peu générale au niveau du film. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, Hamaguchi va avoir une attention à des détails extrêmes qui produit une forme d'étrangeté ou de mystère. Je pense, par exemple, à un plan où, après une réunion un soir, on voit des phares et on voit vraiment les phares faire comme des espèces d'étoiles qui strient l'obscurité. Il y a ça aussi à la fin. Quand il quitte le chalet pour retrouver la petite fille, en fait, il va vraiment filmer la fumée qui sort du poêle et toute la fumée qui envahit l'écran. Et il y a comme ça des détails très locaux qui témoignent, ou le fumier qui la fumée du fumier qui se dégage, voilà, quand la petite fille regarde un peu visiblement une espèce de ferme. Tout ça, c'est assez intéressant et ça témoigne d'une attention de cinéaste. Ensuite, je pense que cette stratégie-là, c'est aussi une stratégie narrative, deux grands blocs narratifs et de nous prendre un peu par surprise. Tu vois, par exemple, sur cette histoire d'agent du glamping. En fait, ils arrivent en plein dans la réunion, c'est un peu des personnages secondaires, et puis finalement, on va quitter pendant une longue partie, mine de rien, à l'échelle du film,
je pense, en fait, à un moment où ça switch un peu.
Un peu plus, mais en tout cas, voilà, on va vraiment partir à Tokyo avec eux, et à la fois, il y a quelque chose de très, très déroutant et de très, d'immédiatement intriguant, impressionnant dans cette espèce de virage-là. Et alors, c'est intéressant parce que... Ma réserve du film tient à quelque chose qui, en fin de compte, est assez personnel et qui dépasse le cadre de ce seul film-là, mais c'est, au fond, quelle relation on entretient avec les films ? Est-ce que ce qui compte, c'est la première rencontre, la première fois, ce que produit un film quand on est vierge complètement de tout a priori, de toute connaissance à son sujet ? Ou est-ce qu'au contraire, une relation avec un film, c'est quelque chose qui implique... de le revoir, d'y réfléchir, de le ressasser, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Ça dépend vraiment beaucoup des personnes. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des choses qui tiennent, je pense, de l'expérience de la première fois. Et je pense qu'il existe un cinéma de la première fois, c'est-à-dire qu'il va jouer sur ce choc, sur cet éclat de la rencontre. Je donnais par exemple, avant qu'on en préparant cette émission, je donnais un exemple, et à mon avis, un film qui réussit à faire très bien les deux, c'est Psychose. C'est-à-dire le fait qu'en fait, à bout d'une demi-heure, 40 minutes, le film se réinvente complètement avec la disparition de Marion Crane, le changement de décor, le changement de focalisation, la bascule dans le film d'horreur, et que cette émotion-là, ou cette déstabilisation-là première, on ne la vit qu'une fois. Si du moins on n'a jamais entendu parler du film avant et qu'on est un peu vierge de tout spoiler ou que sais-je, mais que d'une certaine manière, Psycho, c'est une raison pour laquelle c'est le film qu'on voit 15, 20, 30 fois au cours de sa vie. C'est-à-dire que évidemment, cette chose première, en fait, on ne la retrouve pas, et donc il peut même y avoir une espèce de nostalgie cinéphile de se dire qu'on ne la retrouvera jamais, que c'est vraiment un choc de la première fois, et qu'en même temps, ensuite, le film devient nous nourrit par toute la complexité de sa mise en scène, etc. etc. Et je pense que vraiment, il y a des films qui gagnent en profondeur, qui gagnent en richesse au fur et à mesure qu'on y repense et qu'on y revoit, et au contraire, des films qui s'étiolent un peu. Je crains, c'est mon cas personnel, parce que peut-être que je l'ai vu plusieurs fois et que je l'ai vu en amont, je crains que malheureusement, Le mal n'existe pas appartiennent plutôt à la deuxième catégorie, c'est-à-dire des films qui s'étolent dans le temps. Par exemple, cette scène de voiture, c'est-à-dire qu'à un moment, on a donc les Toikoïdes, on a une scène un peu caricaturale d'ailleurs, de zoom, avec des effets même comiques que je trouve un peu appuyés, pas très drôles, pour être honnête.
Avec une espèce de patron un peu négligent.
Voilà, un patron un peu une caricature de Starter, et derrière, il est redoublé par une photo ou un dessin, je ne sais plus, qui le montre dans la même position. Donc là, il y a quelque chose d'un peu satirique à gros traits. Et puis, il y a donc une scène de voiture qui est assez étonnante, puisque c'est un décentrage complet du récit. Et en fait, je trouve que ça fonctionne très bien la première fois, parce qu'il y a quelque chose d'étonnant. On se dit, mais pourquoi on passe autant de temps avec ces personnages? Pourquoi ce basculement-là? La scène étonnante, en plus filmée depuis derrière, il y a aussi un détail de mise en scène dont parle Marin Gérard dans son texte, c'est-à-dire qu'à un moment les personnages commencent à rire, on ne sait pas pourquoi, il faut qu'on attende le plan qui nous montre qu'en fait sur le GPS, sur le téléphone qui sert de GPS, il y a une application de notification de rencontre pour qu'on comprenne, enfin une notification d'une application de rencontre pour qu'on comprenne que la raison d'un peu du comique de la scène. Donc il y a des détails comme ça, mais dans les faits je pense que ce bloc de parole, ce bloc de durée, il existe un peu dans une logique de tectonique de plaque narratif. Et qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de choses du film qui sont étonnantes la première fois et qui, en y repensant ou en les revoyant, marchent beaucoup moins. Et ça m'embête un peu parce que je pense que Hamaguchi, c'est quand même un peu un cinéaste qui travaille beaucoup ça, mais je trouvais que ses précédents films, y compris ceux sur lesquels on pouvait avoir des réserves à des endroits, par exemple sur Drive My Car, qui est un film qu'on a défendu, qui est un film qu'on a aimé, mais dont c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à redire dans la dernière partie, dans le virage plus ouvertement mélodramatique ou du moins psychologique sur, en fin de compte, ce n'était qu'une histoire de deuil, qui fait que bon, ça tempère peut-être l'enthousiasme qu'on peut avoir dans les toutes premières scènes qui sont très impressionnantes, etc. Mais je trouve que, de manière générale, les films d'Hamaguchi, pour les revoir aussi, tiennent très très bien généralement une deuxième fois. Que ce soit Asako, que ce soit Conte du hasard et autres fantaisies, parce que ça joue sur une précision de la mise en scène, sur une manière dont les scènes se déploient, etc. Et là, tu vois, par exemple, on parle de la scène du travelling, il y a des scènes qui sont intéressantes. Je pense que le film se repose davantage sur cette espèce d'étonnement narratif, de cette impression de « mais où est-ce qu'on est en fait ? Où est-ce que le film va ? Où est-ce qu'il nous emmène ?» Et quand on y repense après coup, quand on le revoit, eh bah, je vois un peu les ficelles, je vois un peu les fils. Et même, tu vois, dans sa dernière partie, par ces espèces de plans sur le cerf, sur la reconduction de motifs, etc., est-ce que ce final est si opaque ? Est-ce que Hamaguchi ne surjoue-t-il pas un petit peu le mystère et ne surjoue-t-il pas un petit peu l'opacité pour nous en mettre plein la vue ? Je me pose un peu la question.
Oui, ben je sais pas si je peux te répondre vraiment là-dessus, parce que pour le coup, là, le film vient de sortir, il sort au moment où on tourne cette vidéo. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois, contrairement à toi, et c'est assez récemment. Donc, je suis encore sur l'émotion, évidemment, de la première fois. Et puis, pareil, quand on travaille forcément un mystère ou un suspense, bon, ça se repose beaucoup, en effet, sur un effet de surprise qui, de toute façon, n'est pas tenable dans le temps, quoi qu'il en soit. Donc, c'est une émotion particulière qui me semble forcément...
Je te donne un exemple. En fait, je comprends très bien. C'est vrai que c'est moi-même, en tant que critique, je me pose cette question-là, puisque on écrit aussi des textes pour des cinéphiles qui vont probablement découvrir, voir le film une fois, voire qui vont peut-être le revoir peut-être une autre fois dans leur vie, mais qui ne vont pas passer du temps sur le film ou... ça ne va pas leur occuper, leur penser jour et nuit, hein, j'entends bien. Mais tu vois, même sur des éléments qui ne sont pas du suspense, par exemple, la scène de réunion. La scène de réunion, je trouve que la première fois, il y a quelque chose de saisissant de se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce bloc de paroles quasiment documentaire sur une réunion ?» Et quelque chose en fait, qui existe. En fait, j'ai pensé aussi à une scène du dernier Mungiu, RMN, je ne sais pas si tu te souviens.
Pas vu, moi.
Mais enfin, il y avait un plan séquence comme ça de 11 minutes sur une réunion municipale et qui détonnait à la fois dans sa forme mais aussi dans sa
d'ailleurs totalité. Les films sont assez proches
mais oui c'est assez curieux en fait je n'y ai pas pensé sur le coup mais c'est vrai qu'il y a un lien entre le dernier Mungiu et le film de Hamaguchi. Et par contre ça c'est pas une scène de thriller, c'est pas une scène de suspense, mais c'est une scène qui joue sur un effet de il y a une bascule, il y a une bascule narrative, il y a une bascule de registre. Et en fait, est-ce que cette scène de réunion ne tient pas juste sur ce geste?
Oui, complètement. Alors là, je te rejoins. Et c'est vrai qu'en fait, pour le coup, c'est un film qu'on pourrait rapprocher un peu d'un cinéma moderne, on va dire européen. Pour le coup, je pense à Shyamalan, par exemple, où pareil, c'est donc des films avec des programmes un peu établis au début et qui vont complètement dévier à chaque fois, avec souvent des blocs assez impressionnants de 20, 30, 40 minutes des fois, des trouées comme ça. Vous savez que quand il y a un effet assez saisissant la première fois, ou même un simple mouvement de caméra devient une espèce d'événement. Pour le coup, ce film-là d'Amaguchi, il fonctionne un peu pareil. Et moi, je me souviens de l'émotion de Drive My Car.
Parce que le film est très court quand même. Ouais.
Drive My Car, c'était ça aussi. Enfin, je veux dire, moi, l'émotion, pour le coup, la dernière partie du film, quand on la revoit, elle est certes assez bien, trop bien presque ficelée. Tout se recoupe, tout se conclut, tout était là depuis le départ. C'est d'ailleurs un petit peu la même chose ici. Mais quelque part, il y a quand même un choc de la première fois qui tient évidemment à un étirement un peu jusqu'au boutiste de certaines scènes qui produisent une émotion qui certes peut être éphémère, enfin, qui on va dire qui est périssable puisqu'elle n'apparaît qu'une fois, mais en tout cas qu'on ne peut pas renier dans la manière dont elle surgit grâce à la construction un petit peu, pour le coup, narrative, on va dire.
Non, mais Sardaigna, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a des films. Moi, je me souviens, je pense que le cas extrême dans ma cinéphilie, je pense que c'est La vie d'Adèle. C'est-à-dire, je pense que c'est vraiment un film Attila le Hun, c'est-à-dire là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Et c'est-à-dire que la première fois, c'est une espèce de déflagration absolue. Et quand on prend un peu de recul et qu'on revoit le film, moi aujourd'hui, c'est peut-être le Kechiche qui me plaît le moins. Et celui en tout cas où il y a quelque chose qui s'est le plus perdu entre la première fois et la rencontre renouvelée avec le film, ce qui n'est pas du tout le cas de ces autres films et ce qui n'est pas non plus le cas des autres films d'Amaguchi. C'est pour ça que je creuse, et je pense que c'est important aussi.
La Conte du hasard, par exemple, n'avait pas vraiment cette structure en tout cas déroutante, c'est-à-dire qu'il y avait un programme qui était assez bien tenu, enfin, c'était un autre.
Alors oui, non, parce que tu vois en fait que chaque. Alors pas la première partie qui je pense d'ailleurs est le moins bon des trois chapitres, mais si tu vois le deuxième ou le troisième, en fait si, c'est-à-dire que par exemple tu as cette réunion entre ce professeur et son élève, qui quand même prend un moment, tu vois, il y a une forme de suspension, il y a quelque chose qui décolle, etc. Et puis aussi dans la dernière partie, en fait, il y a quelque chose qui se trouble dans ces deux amis qui se retrouvent, mais en fait pas vraiment. Et donc, il y a cette espèce d'émerveillement, de surprise narrative qui est très séduisant la première fois, mais quand on revoit le film, ça tient toujours sur des détails, de mise en scène, de découpage, etc. Je dis pas du tout que là, le film en est dénué, mais je trouve que sa grande dynamique, ses grandes arêtes, il repose davantage sur ce type d'effet-là, qui marche très bien immédiatement sur le coup, mais ensuite cette sidération qui d'ailleurs neutralise un peu la pensée, c'est-à-dire tu vois, si on essaie de déplier concrètement ce qu'essaie de nous raconter le film à la fin, je suis pas sûr qu'on trouve quelque chose qui soit pas un peu filandreux ou un peu tu vois.
C'est pas évident, mais ouais. Ça on laissera évidemment les personnes qui vont voir le film juger par elles-mêmes. C'est évident, pas il y a rien d'évident du tout. Mais je pense aussi que ça tient aussi à un. Là j'étais assez étonné pour le coup, plastiquement. Voilà, le film est un peu plus hétérogène que les précédents. Donc ça, il faut
aussi attendre,
c'est-à-dire comme tu
aussi.
Disais, voilà. Ouais. Alors déjà, la netteté, la saturation est assez saisissante par endroit. Enfin, vraiment, ça ressemble pas vraiment aux autres. On a l'impression que ça a été tourné pourquoi avec une autre caméra ou il y a quelque chose qui a changé en tout cas. Je sais pas exactement. Mais même tu parlais tout à l'heure, voilà, d'un espèce de regard un peu caméra surveillance. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez Amaguchi pour le coup. Enfin, il y a des angles un petit peu étonnants. D'ailleurs, dès le premier plan, le fait d'avoir une espèce de contre-plongée un peu presque zénitale. Enfin, c'est une espèce de plan, l'inverse d'un plan zénital, quoi. Vraiment. Il y a voilà, des angles de caméra ou des changements de régime dans la manière de mettre en scène les scènes qui font que du coup on trouve peut-être moins de logique ou moins de construction scénique, on va dire, qu'on avait peut-être dans d'autres films.
Ah, moi je pense que ça a toujours été là et je pense qu'il y a toujours une
le
forme
côté un peu hétérogène,
je pense qu'il y a toujours une forme d'âpreté et d'étrangeté chez Amaguchi qui peut être déstabilisante. Et même souviens-toi par exemple le début des Zaku, moi je trouvais le début des Zaku hyper composé, puis tu avais cette espèce de ralenti sur des feux d'artifice que tenait le personnage. Il y avait des effets qui étaient très étonnants et en fin de compte ces effets dissonants là, quand tu vois Passion, etc., ça a toujours été quelque part là chez Amaguchi. Et au fond, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse ce côté un peu plus âpre, rugueux, qu'on retrouve d'ailleurs dans la musique. C'est-à-dire que parfois il y a des grandes envolées musicales et puis hop, ça s'arrête d'un coup.
Oui, c'est vrai.
Un peu à la Godard, d'ailleurs, il se revendique un peu de Godard en interview sur ce point. C'est-à-dire qu'il va casser l'émotion, il va casser une espèce d'harmonie et il va aller sur quelque chose qui est plus inconfortable. Et ça, je pense que ça a toujours été là. Je pense que c'est peut-être. Je pense que c'est la part la plus intéressante du film d'ailleurs. Et en revanche, il y a une vraie construction scénaristique, dramaturgique qui peut être là. Est un peu plus saillante ou du moins qui prend le pas à certains moments et qui fait que le film, paradoxalement, alors que je pense que c'est le film qui a priori est le plus entêtant d'Amaguchi, est celui qui me hante le moins. Mais bon, encore une fois, ça joue sur un truc très personnel, savoir qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce qu'on retient le show de la première fois ? Et si je suis honnête sur ce plan-là, j'ai eu cette espèce de côté presque un peu transi, sidéré en découvrant le film, et le film m'a vraiment impressionné. D'ailleurs, en sortant, j'avais peut-être le sentiment que c'était le film le plus accompli et intrigant d'Amaguchi, et depuis, j'ai fait le chemin inverse. Oui. Mais en tout cas, je me pose cette question, je n'ai pas de réponse définie, mais voilà. Pour moi, à mon avis, c'est très personnel encore une fois, je ne décrète pas quelque chose d'universel, mais un rapport avec un film, c'est mouvant, et que justement, il faut être sensible à ces espèces d'oscillations, et que un film, c'est pas un all-in au poker, quoi. C'est pas tu mises tout d'un coup et puis ensuite il y a plus rien. C'est quelque chose aussi qui se construit dans le temps. Et je dois dire que là, c'est ma légère réticence sur ce film-là, c'est que plus je réfléchis au film et plus je vis un peu avec lui, et moins je le trouve en fait aussi riche et captivant que la première fois, quoi.
Non, je te comprends. Après, je trouve peut-être un côté pour le coup qui confirme un petit peu ce que tu dis. Pour le coup, ce serait la partie un petit peu fantastique du récit qui s'achève, enfin qui va se relier à l'autre partie, c'est ça que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc l'idée un petit peu que du coup ce serait un petit peu verrouillé, enfin entre la fin d'ailleurs, le dernier plan du film répond au premier, enfin il y a un côté comme ça très maîtrisé dans l'écriture, et en même temps je trouve que dans certains détails, pour le coup, il y a quelque chose comme ça qui m'échappe complètement, c'est-à-dire que je n'arrive même pas des fois à décrire les scènes, enfin je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, ou décrire les plans. Je sais qu'on a eu beaucoup de discussions entre nous pour préparer à la fois la couverture du film sur Criticat, voilà, sur certains plans, sur certaines scènes, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Et c'est vrai que
c'est quand même plutôt bon signe.
Voilà, c'est assez pour le coup assez fascinant à discuter. Enfin, je sais que voilà, c'est un film qui va faire beaucoup pour le coup, on sort du film, on a forcément plein de questions en tête. C'est un film qui pose beaucoup de questions plus qu'il ne donne de réponses. D'ailleurs, c'est un peu l'inverse du titre finalement. Enfin, on est à l'inverse d'une affirmation. Pour le coup, à la fin du film, est-ce que le mal existe ou pas ? En fait, peu importe. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'une sorte d'ambiguïté un peu permanente qui fait que, pour le coup, le film, moi, je trouve, me reste en tête et assez fascinant. Et je trouve qu'il rejoint d'ailleurs, ça je voulais le mentionner quand même avant qu'on termine peut-être, que c'est un film qui ressemble peut-être assez beaucoup au meilleur Kurosawa, donc Kiyoshi Kurosawa, qui a été son enseignant, et donc on peut le rapprocher peut-être de Cure ou de ces périodes-là, un petit peu les films forestiers de Kurosawa. Et je trouve qu'on retrouve quelque chose de l'ordre de cet ordre-là, d'ailleurs, à la fois dans les limites que dans les qualités, hein, c'est-à-dire le côté un petit peu filandreux, comme tu dis, et de l'autre côté, le côté très séduisant, très, très vénéneux presque, du film qui vient comme ça te saisir, t'attraper sur certains points hyper étranges dans le récit, quoi.
Je pense que tu as tout à fait raison, et je pense quand même, vraiment pour terminer sur une note positive, parce que c'est quand même un film intéressant et qui a plein de qualités. Là, en fait, où il me semble le plus fort, justement, c'est pas forcément dans ce jeu d'embranchement narratif, dans ce jeu de dialectisation, de rejouer les événements du début, etc. Là où il me semble très fort, c'est qu'en fait, le film n'est jamais plus troublant, jamais plus mystérieux que quand il est au maximum de son réalisme. Et je pense que le mieux, par exemple, c'est intéressant justement les débats qu'on a eus, notamment dans la composition des textes, puisque les textes sont écrits, sont envoyés, sont relus, sont discutés entre nous. C'est par exemple la deuxième scène de bûcheronnage, si je peux appeler ça les choses ainsi, et sur l'ambiguïté de voir comment le personnage ressent. Est-ce que c'est invasif que le citadin veuille lui à son tour s'amuser, tu vois, à couper du bois,
avec une hache,
et en fait c'est vraiment une scène où on filme des interactions en plan séquence in extenso avec des personnages qui sont plutôt à l'arrière-plan, qui viennent au premier, avec un réagencement de la scène, de la situation. Et en fait c'est dans ces moments-là que le film est le plus passionnant. C'est dans ces moments où justement il y a une durée, il y a un travail sur la durée, il y a des situations qui s'étiolent dans le temps, qui s'étirent. On voit vraiment dans le détail le personnage prendre la bûche, la couper, terminer de couper l'ensemble du bois, le ramener à un endroit particulier près de son chalet, etc. Et en fait, c'est cette scène-là qui sont les plus passionnantes parce qu'elles articulent justement une forme d'opacité et en même temps quelque chose de complètement cristallin, puisque tout est là sous nos yeux, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de hors-champ, etc. On voit tout. Et je pense que c'est là que le film est quand même assez fort, c'est-à-dire d'articuler ces deux veines, une veine hyper réaliste, concrète, matérielle, et quelque chose qui résiste un petit peu et qu'on ne peut pas complètement interpréter de manière claire et évidente.
Bah oui, bah ça, c'est un peu l'espèce d'idée un peu théorique générale, on va dire que plus tu es réaliste, plus tu es dans le surnaturel quelque part. Voilà. Plus on s'approche de la matière des choses.
Le film creuse vraiment cette idée.
Voilà, donc je pense que c'est une bonne conclusion, si tu veux qu'on s'arrête là. Alors, on va conclure cette vidéo. Avant de vous laisser partir, on vous dit juste que donc on se retrouve, comme l'an dernier, au Festival de Cannes. Donc, Josué sera là, Marin sera là, enfin un petit peu avec l'équipe de l'an dernier, pour faire notamment les vidéos dans un dispositif un petit peu remanié. Vous verrez, vous découvrirez ça sur le moment. Mais donc, il y aura évidemment des sorties de séance, des vidéos sorties de salle sur les films les plus attendus pendant la quinzaine cannoise. Donc, on se retrouve là-bas, du coup, et puis on vous retrouve sur la chaîne YouTube à ce moment-là. Merci de nous avoir regardés, à très bientôt.